spécialiste, et encore moins de signer pour le catalogue une énième étude sur la dépense selon Georges Bataille. Je devais trouver un biais. Le directeur du centre d'art, Philippe Massardier, nous fit visiter les lieux. Il y a, je l'ai dit, une joie à traverser des ruines, des friches, des chantiers. L'espace semble naître. Il respire encore pour quelque temps l'étrangeté du vide, et même saturé de gravats, encombré de parpaings, de vieux plâtres et de panneaux d'outillage, il garde en lui la vérité de la désaffection, celle du désert qui court entre les silhouettes et qui déjà, tandis que nous croyons vivre, nous indique combien l'effacement nous guette. Les murs nous regarderont disparaître. Ainsi, le plaisir que nous avions en passant, d'étage en étage, en traversant les merveilleux espaces de l'ancienne Banque de France, la salle des coffres, la salle des archives aux immenses classeurs muraux, la serre des monnaies avec sa coursive, ses pupitres à roulettes et son monte-charge, et tous les espaces glacés où l'on stockait naguère les billets usagés, ce plaisir nous ouvrait-il à la fois à cette chance des géométries inoccupées, à cette espèce d'oisiveté sauvage des lieux qui répond à notre mélancolie, mais aussi au verdict plus cru de la perdition. À une époque, il n'y avait rien, et un jour, de nouveau, il n'y aura plus rien. Philippe Massardier déambulait dans les étages en s'appuyant sur une canne qui lui donnait un air à la fois goguenard et shakespearien. Il avait la souveraineté malicieuse de celui qui a les clés du château. Non seulement il jouait pour nous à merveille le rôle de guide, voire de pilote, et tout en ouvrant les portes nous racontait les histoires, petites et grandes, de ce lieu, mais il nous introduisait dans l'épaisseur du temps. Toute architecture est d'abord spectrale, et je me disais, en marchant sagement derrière le maître des lieux, qu'il me fallait écouter les fantômes. À un moment ou un autre, l'un d'eux me ferait signe, et je le suivrais, comme je suivais Philippe Massardier. En toute occasion, j'attends ce trouble qui déclenche les romans. Je fus servi. En sortant dans le jardin pour fumer une cigarette, je découvris juste derrière la banque et pour ainsi dire tournée vers elle comme si elle n'existait que pour la contempler, pour en être à chaque instant rattachée comme une extension maladive, une belle maison de briques rouges à deux étages qui semblait abandonnée. Philippe Massardier m'apprit qu'elle avait appartenu à quelqu'un qui l'appelait le trésorier payeur. Il ajouta que cette maison était reliée à la banque par un souterrain aujourd'hui bouché. Au moment où il me révéla ce détail, il se tourna brusquement vers moi, un éclat ironique passa sur son visage. Il vit que j'avais vu. Je compris que son objectif était atteint. Il avait déclenché ma curiosité. Un roman scintillait. J'étais pris. Cet éclat sur le visage du directeur m'avait paru louche, autant que cette histoire de tunnel, trop belle pour être vraie. Pourtant, elle me fascina. Tout le reste de la journée, je ne pensais qu'à ça, au tunnel, au trou, à l'obsession qui nous les fait creuser. Non seulement je pensais à cet invraisemblable trou creusé sous la Banque de France, mais déjà moi-même, en y pensant, je ne cessais de creuser. Le tunnel, je le voyais, je m'y engouffrais, je le continuais. On pourrait considérer que tout ce qui va suivre, le récit entier que je vous destine, a été calculé par le directeur du Centre d'art. En me livrant cette information, il savait quel effet elle peut produire sur l'esprit d'un romancier. On pourrait même considérer que Philippe Massardier ne m'a lancé sur cette piste qu'afin d'en savoir plus, que je mène à sa place une enquête dont il était curieux et que peut-être il avait mené lui-même quelque temps avant de la laisser tomber. Chacun son travail, devait-il songer, l'un dirige le centre d'art et l'autre des fantômes. En rentrant à Paris, l'obsession se mit à grandir. Je ne pensais qu'au tunnel du trésorier payeur, j'en rêvais même, je ne cessais la nuit d'arpenter ce long trou qui reliait dans mon imagination la salle des coffres à la chambre à coucher du trésorier. Je le voyais, je me voyais descendre dans les arcanes humides de la Banque de France et à travers les couches d'argile et de craie qui composent la terre des bassins miniers, je passais sans cesse de la vie à la mort. Chaque matin, en me réveillant, j'avais la sensation d'avoir fait le casse du siècle, mais aussi de revenir du pays des morts. J'écrivis à Léa Bismuth que j'avais trouvé le biais, le fameux biais qui me permettrait de participer à son exposition. Je lui proposai sur le ton de la blague, et ce ton me permettait pudiquement de...